Bonjour et bienvenue de l'été 2014. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse de soir. Et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. La conférence de ce soir s'intitule « Honorer qui je suis avec l'EFT ». À travers sa pratique de psychologue, notre conférencier veut nous montrer ce soir comment l'EFT favorise l'accès à différents aspects de soi, que nous pouvons prendre en considération grâce aux liens de confiance qui s'établissent entre le thérapeute et son patient. À travers d'exemples cliniques, il nous parlera du déni de soi, comment nous intériorisons un modèle qui nous dessert et nous montrera comment on peut contourner cet obstacle sans entrer en conflit avec cet aspect de soi qui est parfois vécu comme une identité. À travers des cas concrets de sa pratique, il nous expliquera comment l'EFT favorise l'accès à des mémoires et à des vécus de détresse. Il nous donnera les clés de l'EFT afin d'honorer un moment qui a pu être occulté dans sa vérité émotionnelle, et cela au profit d'un jugement ou d'une négation de l'émotion du choc de la souffrance, afin de déployer une force de vie apaisante. Mon invité ce soir est psychologue clinicien, psychothérapeute et expert EFT à Lyon. En tant que praticien libéral et praticien dans une clinique spécialisée dans le traitement de la dépression, son expérience de l'EFT se calcule en milliers d'heures. J'ai le plaisir de vous présenter Laurent Hersant. Bienvenue Laurent.
Bonsoir, merci Maria.
Alors, pourquoi ce sujet « Honorer qui je suis » ?
Alors, pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ce sujet, je vais peut-être commencer par expliquer ma rencontre avec l'EFT, hein, comment elle s'est inscrite pour moi. Je travaille depuis plus de 15 ans en tant que psychologue et psychothérapeute dans une clinique psychiatrique et en cabinet. Et je reçois des personnes ayant souffert de dépression ou souffrant encore de dépression. Ma pratique et ma recherche personnelle m'ont conduit à m'orienter vers des thérapies centrées sur les émotions. Ça a été plus quelque chose pour moi qui m'intéressait, où je sentais que là je pouvais être efficace parce que ma sensibilité était plus, on va dire, affinée dans les relations aux émotions. Et puis pour le travail sur moi, je sentais que c'était le biais qu'il fallait choisir. Donc dans le cadre de mes activités professionnelles, il m'a été toutefois difficile d'appliquer toutes les formations que j'avais suivies, où les mêmes types de thérapies que j'avais pu pratiquer n'étaient pas des modèles valables pour des personnes qui souffraient de dépression, qui n'étaient pas forcément des possibilités d'échanger par le langage, ou qui étaient trop fragiles ou trop fragilisées pour pouvoir aller dans des thérapies, trop mobilisantes. Il fallait plutôt prendre des biais un peu plus doux. Bien sûr, tout ce que j'ai pu faire, l'hypnose, la PNL, l'approche psychocorporelle, même la psychanalyse, la relaxation et d'autres encore, le MDR notamment, m'ont beaucoup aidé. Mais je sentais une limite, c'est-à-dire que j'attendais quelque chose qui me permette d'aller un peu plus loin dans l'accueil et dans le suivi de mes patients. Et puis aussi pour moi, parce que malgré tout, il m'arrivait souvent de dire « tiens, j'aide », mais moi il me manquait quelque chose, et je cherchais aussi un outil qui me permette d'aider, donc, avec lequel je puisse être autonome. Et c'est à ce moment-là que, par hasard, au cours d'une lecture sur une mailing list de professionnels, je vois un petit mot où il y a écrit... Un praticien écrit « Essaye l'EFT ». Il dit ça à un collègue qui est un petit peu en train de ramer, qui n'arrive pas à aider ses clients sur une problématique spéciale. J'ai noté cela hein, quelque part. Ça venait à moi tout seul. Je dis « Tiens, il n'y a peut-être pas de hasard ». Et puis, j'étais sur Internet. J'ai téléchargé le manuel de Gary Gregg. Première surprise, c'était gratuit. Je vais ensuite voir les vidéos. Bon, c'était des espèces de miracles, des cris, j'avais l'impression de visite est presque lourde. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, toutefois, j'ai une relation avec les pratiques anglo-saxonnes assez ouverte parce que je trouve qu'elles me sont beaucoup apportées, notamment au niveau des thérapies brèves, les thérapies systémiques, etc. Donc, je ne vais pas faire le détail là ce soir. Donc je suis resté quand même ouvert d'esprit. Je me suis dit, bon, allez, lâche tes a priori, on ne sait jamais. Mais j'ai quand même laissé ce livre de Gary Gregg sur mon disque dur à peu près pendant un an. Et puis, j'ai rencontré un collègue qui travaille juste à côté de mon bureau. Il me dit un jour, dans le couloir, est-ce que tu connais l'EFT? Alors, évidemment, j'avais tâté le terrain auprès de deux ou trois professionnels pour savoir ce qu'ils en pensaient. Personne ne me connaissait. Donc, je suis allé dans son bureau. Il m'a fait un protocole d'EFT sur un souvenir que j'avais choisi, bon, un peu banal. Ça n'a rien fait sur moi. Je me suis dit, bon, de toute façon, c'est classique chez moi. Je suis assez résistant aux thérapies. Je pense que je dois être... peut-être dans le contrôle, vouloir bien faire, etc. Donc j'ai dit, ok, je sais que ça, c'est pas pour ça que ça ne marche pas. J'ai essayé sur ma collègue, pour qui ça a marché. Après, j'ai proposé à des patients s'ils voulaient bien essayer un truc avec moi, que j'étais en train d'apprendre, et j'attendais leur expertise. J'ai eu des bons retours d'eux. Toutefois, à un moment, je me suis un peu, j'ai donc commencé à le faire un peu plus sur moi, d'une manière un peu plus systématique. J'ai lu le livre de Gary Gregg, bien sûr. Donc, j'ai commencé à faire tous les souvenirs que j'avais pu ou cru traiter par d'autres approches, de d'autres techniques, souvenirs d'enfance, souvenirs d'adolescence. Je passe les détails. Et je faisais ça entre chaque patient, le soir, en permanence. Je tapotais. Et parfois, j'avais au cours d'un tapotement rien. Et une demi-heure après, en faisant autre chose, la cuisine par exemple, j'avais un souvenir qui me revenait, qui me paraissait être en association. J'ai compris que c'était une association qui se passait, et sur un mode un peu différent de ce que j'avais pu rencontrer jusqu'à maintenant. Par exemple, c'était peut-être une sensation corporelle, une tristesse, ou même une joie qui apparaissait. Alors du coup, je me dis, il y a quand même quelque chose d'important là-dedans, mais je me sentais pas vraiment légitime, parce que j'ai aussi ce moule qu'on doit faire une formation pour pouvoir pratiquer. Hein. J'ai une formation universitaire, j'ai fait plein de formations, j'ai essayé plein de choses, et là je me suis dit, non, t'es pas légitime, faut être sûr de bien faire les choses. Alors, je me suis inscrit à un premier stage de EFT avec Jean-Michel Curé. Et là, j'ai commencé à travailler de façon très intéressante, c'est-à-dire qu'il m'a montré vraiment le protocole, ça m'a rassuré. D'abord, il ne m'a pas jugé parce que j'avais commencé à faire les choses sans faire de formation, bien au contraire, il m'a encouragé. Et puis, après quoi, j'ai refait d'autres formations aussi pour aller plus loin avec Louise Gervais, hein, qui est une vraie artiste EFT, parce qu'elle a des années de pratique. Et là, je crois que ma pratique s'est vraiment libérée. J'ai pu notamment découvrir dans des douleurs chroniques à une épaule qu'il y avait un conflit familial qui était là, stocké, et qui s'est en tout cas fixé sur cette épaule. Et j'ai vu à quel point ça pouvait être puissant comme approche. Et donc après, je l'ai partagé d'autant plus facilement avec mes patients en leur demandant toujours leur expertise. C'est-à-dire, nous allons essayer ensemble. Et si je partage cette rencontre avec vous, c'est pour vous dire que les seuls experts, c'est vous tous. Qui nous écoutez, car cette technique procède d'une transmission horizontale, c'est-à-dire c'est comme une tradition orale moderne, comme dirait Louis Gervais, que nous pouvons tous partager. Et j'espère ce soir pouvoir partager quelques clés qui ouvriront les portes, comme elles ont été ouvertes par les formateurs et les précédents congrès. Pour cela, je vous parlerai de la consultation et de ce qui s'y passe, puis nous aborderons les mécanismes psychologiques qui se mettent en place dans la dépression, ou des vécus douloureux à travers des exemples qui illustrent le déni de la détresse éprouvé alors. Puis je tenterai de donner une explication de pourquoi l'EFT est pertinente dans de tels mécanismes, pour enfin terminer par la proposition de s'honorer dans tous les aspects de soi.
Beau programme, Laurent. Alors, pour commencer, au fond, pourquoi vient-on voir consulter un psychologue?
Ouais, ça c'est une bonne question, parce qu'on nous la pose souvent. Pourquoi venir voir un psychologue? Alors bon, j'ai un peu expliqué ce qui se passe. Les personnes qui viennent nous voir, en général, sont en souffrance. D'un mal-être, d'une envie de changer, ont une demande, une envie de changer quelque chose dans leur vie, ou ils ont un questionnement sur eux-mêmes, ils ont pu avoir un choc récent, le médecin a pu les envoyer pour justement essayer d'amoindrir les conséquences du choc. Parfois même ce sont des amis, la famille, un conjoint qui dit là, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, qui va pas bien. Dans ce cas-là, de toute façon, quel que soit le contexte, il y a toujours un premier contact, une première rencontre qui est très importante, parce que c'est pendant ce moment-là que nous allons aborder les raisons de la première prise de rendez-vous. Le premier contact se passe déjà par un bonjour, un accueil, et par la possibilité d'établir un climat de confiance. En tout cas, c'est ce à quoi moi je m'attache, et je pense que c'est la plupart d'entre nous, c'est ce à quoi nous nous attachons à un accueil. Alors parfois les gens viennent en attendant quelque chose de particulier, ils ont entendu parler de l'EST, ils ont parfois un peu une baguette magique. Moi je commence toujours par écouter la souffrance, c'est-à-dire enfin demander les raisons qui viennent et expliquer un petit peu ce que je comprends, hein, ce que je peux saisir, moi pendant le premier, deuxième, troisième entretien, cette dynamique particulière qui fait qu'ils souffrent là, car très souvent les personnes rejettent cette souffrance ou ne comprennent pas pourquoi ils ont tel ou tel comportement qui ne leur convient pas ou qui ne leur convient plus aujourd'hui. Et j'aime bien aussi leur envoyer que c'est logique dans ce développement-là qu'il y a eu forcément de bonnes raisons pour favoriser déjà un accueil d'eux-mêmes. Mmh. Même que ce soit au moins entendu quelque part, même si ce n'est qu'intellectuel et qu'au niveau émotionnel, j'ai pas, ils ne soient pas d'accord. Ça, c'est OK, hein, c'est comme ça.
Et est-ce que dans ton expérience, quand ils viennent comme ça, est-ce que leur demande est toujours claire pour eux?
Non, ça peut être parfois très flou. Ils peuvent pas vraiment savoir ce qui se passe. Il peut y avoir un mal-être, des sensations, quelque chose qui est pas, qui a besoin d'être un petit peu mis en travail, mis en lien.
Et ça, c'est aussi ton rôle.
Et là, c'est aussi notre rôle de voir ce qui se passe aussi, et puis peut-être d'éclairer s'il y a vraiment un besoin. Et d'honorer ce besoin, hein, mm-hmm. s'il est là ou pas. Et peut-être même d'honorer le fait qu'il n'y en a pas besoin. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui viennent, je pense que ça nous arrive tous, qui sont persuadés qu'ils doivent aller voir un psy. Malgré tout, ils vont plutôt bien. Et une autre consultation.
Vous allez trop bien.
Voilà. Voilà. Et ça arrive. Ça arrive, heureusement. Ouais. Alors, pour illustrer un peu comment je fais un petit peu pour accueillir un patient, je vais peut-être prendre simplement l'exemple d'Oscar. Mm-hmm. Je prends cet exemple-là parce que alors, c'est un exemple d'une personne que j'ai suivie dans le cadre de mon activité institutionnelle en clinique. C'est pas un patient que je suivais, c'est un patient que j'ai juste vu quelques séances très courtes. Il avait été adressé par le psychiatre, un des psychiatres avec qui je travaille. Il est suivi à l'extérieur, où il a un très bon lien avec son psychanalyste, dont il est très satisfait. Sauf que il a des attaques de panique. Et donc, je fais de l'EFT, on a dit, bien peut-être que ça va soulager ce monsieur. J'ai commencé d'abord par lui demander de me parler de l'origine, de la première fois où il avait pu avoir cette attaque de panique, car très souvent, on s'en souvient de cette attaque de panique. Hein. Ça peut parfois prendre un petit peu de temps. Dans ce cas-là, ce monsieur l'avait eu dans un internat. Il avait à peu près, je crois, 12 ans. Il venait d'être mis en internat alors qu'il était, il vivait dans les Alpes, tranquille, dans une école où tout se passait bien, avec une famille très soudée, de très bons liens, une famille très aimante, très contenante. Et il s'est retrouvé, il était très libre, hein, il racontait, dans la nature, on allait se balader. Il avait beaucoup de confiance et là il se retrouve dans un lieu où il est plutôt enfermé, dans lequel il y a beaucoup de règles et dans lequel il y a un dortoir collectif avec où toutes les générations sont mélangées. C'est-à-dire qu'il se retrouve aussi bien avec des adolescents qui ont 5-6 ans de plus que lui. Évidemment, il y a comme un décalage. Il y a forcément les petits jeux, hein, je parle d'un internat d'il y a 50 ans. Donc on peut imaginer les règles strictes qui étaient à l'œuvre à l'époque, où il n'y a aucune place. Ni pour les émotions, ni pour l'affect. Or, Oscar, qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là? Il se sent seul, il se sent abandonné, il a des sensations qui commencent à arriver dans son corps, qui lui disent « il y a quelque chose qui ne va pas, je vais pas bien », sans trop pouvoir les exprimer, parce que de toute façon, elles ne seront pas accueillies. Donc, il a raison de ne pas les exprimer. Elles ne seraient pas accueillies, et ça risque d'entraîner des brimades.
Ça va même le mettre en danger, encore plus.
Encore plus. Donc, ça, c'est pertinent, son mécanisme de défense. Toutefois, il est tellement, quelque part, refoulé, cette peur, qu'elle se transforme vraiment, elle est vivante dans le corps, et il y a un moment, le corps dit « non, stop, c'est pas possible ». Et là, il va à l'infirmerie, où, ma foi, il est un petit peu mis de côté, mais au moins un peu plus tranquille. Bon, sa peur est assez logique finalement. Hein, il se sent en danger, son corps se mobilise, je lui dis stop.
Donc ça n'a pas été nommé comme ça, peut-être à l'époque, il n'a pas réalisé que c'était ça, mais c'était une crise de panique.
C'était une crise de panique, il ne l'a pas du tout nommé comme ça. Et en fait, dans ce premier entretien, on va déjà la nommer, et on va déjà l'honorer. Hein. C'est une sensation qu'il a eue dans le corps, une sensation dont il ne savait pas attribuer le sens. Et c'est souvent le cas dans les attaques de panique, je pense que tu seras d'accord avec ça, où on ne sait pas ce qui se passe, on a un débordement de sensations physiques, et avec le sentiment qu'on va mourir. Mais c'est un vrai vécu. Donc le corps se met en alerte, en panique. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de cognition ou de pensée particulière. Si ce n'est la pensée de la peur, je suis en danger, je vais mourir.
Ce qui était nécessaire et utile pour Oscar à ce moment-là.
Oui, c'est vrai. Il avait besoin de se mettre quelque part entre parenthèses.
Et ça a continué après pour lui.
Et ça a continué après.
C'est
devenu une sorte d'habitude. C'était comme une première imprégnation, une première empreinte. Et il a continué à se développer avec ça. C'est quelqu'un de très perfectionniste, très brillant, qui a fait de brillantes études, qui a fait une carrière excellente, médicale, qui a donné entièrement satisfaction, je pense, à ses clients, c'est évident. Sauf que lui, c'est toujours un peu oublié, a toujours été un peu en retrait, un peu dans la notion de service, mais moi, je compte pas vraiment. Quand on lui demande d'ailleurs de décrire la situation, que dit-il ? Je suis mal, qui correspond au vécu qu'il a. En réalité, la situation à l'époque, c'est j'étais à tel endroit, on est d'accord, il était dans l'internat, quand on s'est moqué de moi, parce que c'était le cas, j'attendais de rentrer chez moi et de recevoir de l'affection, d'être rassuré. Alors, ça, c'était la vérité d'aujourd'hui, en tout cas qu'on peut mettre en lien. Dans cette situation, Oscar nous parle, dit « je suis angoissé ». Il y a comme une confusion entre la situation et l'émotion qu'il a ressenti et qu'il continue à ressentir dans certaines situations aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des ressentis, c'est-à-dire des sentis à nouveau de sa première empreinte.
Des rappels de la première empreinte.
Des rappels de la première empreinte, comme des programmes qui se mettent en route, sans qu'il puisse avoir le contrôle. Et plus il essaye d'avoir le contrôle, évidemment, paradoxalement, plus il s'active. Plus ça lui échappe. L'avantage des techniques émotionnelles comme l'EFT, c'est qu'elles ont la faculté de défusionner le trauma. Des faits. Nous allons demander c'est quoi l'image, pendant l'entretien préalable avant de pratiquer une ronde EFT, nous allons demander c'est quoi l'image, c'est quoi ce que vous dites, où est-ce que vous le sentez dans votre corps. C'est une première mise en relation avec le moment, un lien entre le passé et le présent, mais on le réinterroge. Et dans un soin EFT, dans ce cas, on va donc mobiliser le corps avec des tapotements. On va identifier peu à peu des émotions qui émergent, ou les pensées, pour faire face à cette détresse non prise en considération aujourd'hui comme hier. Cela peut parfois prendre un peu de temps. Je prends comme exemple ce cas de figure, car même si l'EFT est une technique de thérapie brève, il faut prendre aussi du temps pour comprendre. Très souvent, nous recevons des personnes qui ont eu des séances EFT ou d'autres techniques de soins, où il a été oublié d'expliquer que nous ne soyons pas un traumatisme, mais nous prenons soin d'un vécu. Ça, c'est vraiment important et c'est essentiel. C'est l'éthique de notre métier. Je pense aussi au cas des violences ou d'abus où la personne se sent coupable et responsable de l'acte qu'elle a subi. Bien sûr, on sait que c'est pas vrai, mais il est important de considérer cela d'abord, car c'est sa réalité subjective. Et le premier aspect à traiter, quand on commence par exemple avec délicatesse à proposer, et ça on peut peut-être pas le faire dès la première séance, ça peut arriver, mais pas toujours, même si j'ai de bonnes raisons de me sentir coupable de cette relation difficile avec un parent, je m'ouvre la possibilité de m'aimer, la personne se sent enfin reconnue dans sa réalité subjective, puisque c'est comme cela qu'elle la pense. Et on est là pour accueillir ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent.
Alors, plus précisément, Laurent, quelle est la place des émotions dans ce type de travail?
Oui, alors, nous avons parlé de la souffrance d'Oscar. Nous aurions aussi pu parler de souffrance au travail ou dans la famille. Qu'est-ce qui est bien souvent au cœur de cette souffrance psychologique? C'est une détresse non prise en considération à ce moment-là, avec un cortège d'émotions non exprimées ou non exprimables lors de l'événement et que nous allons ensemble tenter d'honorer.
Comme Oscar qui a eu peur à ce moment-là.
Oui.
Il s'est senti isolé, mais c'était pas possible de le dire.
Non,
c'était pas possible que ce soit pris en considération.
C'était pas possible. Au moins aujourd'hui.
Ça a trouvé la sortie que ça a pu.
Ça a trouvé la sortie que ça a pu et au moins aujourd'hui, on peut lui offrir la possibilité de s'honorer en même temps pour le courage qu'il lui a fallu puisqu'il a quand même vécu dans cet internat, il a eu son bac, il a réussi des études brillantes, et voilà, il s'est développé malgré tout. J'ai peut-être un peu parlé des émotions maintenant, sans forcément rentrer trop dans les détails. Souvent, nous les étiquetons comme bonnes ou mauvaises. La peur, l'anxiété, la culpabilité, le désespoir, le dégoût, la honte sont des émotions auxquelles nous souhaitons tous échapper. Je pense que tu es d'accord avec ça.
Oui.
La plupart du temps, les émotions nous sont amenées comme un problème, alors que pour nous, thérapeutes, c'est une expression d'un besoin non satisfait, une détresse non accueillie. En vérité, dans le domaine des psychothérapies, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a des émotions agréables, désagréables, voire neutres, qui constituent un langage qui intéresse toutes les facettes de notre être, à savoir nos réactions corporelles, notre manière de penser, notre comportement, etc. Nos émotions, c'est un peu notre sixième sens, en fait. Un sixième sens qui nous renseigne sur notre intérieur en relation avec l'extérieur, c'est-à-dire les autres.
Mmh. Oui, ça a été adressé dans une conférence l'année dernière sur la peur. Les émotions sont là en signal d'alerte.
Oui, et c'est un bon signal d'alerte. On
voilà.
peut remercier l'honorer.
C'est pas parce qu'il y a un voyant qui s'allume qu'on va pester contre le voyant. On va se dire, oups, il doit y avoir quelque chose derrière.
On ne va pas plus descendre de la voiture ou l'arrêter. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant peut-être. Mm-hmm. Mais ça, c'est facile à le dire quand on est là dans la position thérapeute. Quand on le vit, je comprends.
Bien sûr.
Ah, c'est pas évident.
Oui.
La rencontre donc, de ces émotions constitue finalement la voie royale de la connaissance de soi. Il faut passer cette a priori de vouloir les rejeter. Enfin, il faut. Nous faisons ce que nous pouvons pour... J'aime pas le « il faut », mais bon, tant pis. En effet, nos émotions, qu'est-ce qu'elles révèlent? Elles révèlent nos désirs, et même ceux que nous ne souhaiterions pas avoir. Elles déterminent nos valeurs, ce qui est important pour nous et qui constitue aussi notre identité. L'approche psychothérapeutique centrée sur les émotions comme l'EFT est simple et profonde. Simple car il concerne des faits concrets. Par exemple, j'ai peur de prendre l'avion, d'avoir une relation, une tristesse ou d'être séparé d'un conjoint. Mais aussi des sensations corporelles, des pensées, des comportements. Profond car il touche à la connaissance de notre intime en s'intéressant à nos valeurs et à nos désirs.
Mmh. Alors en préparant cette conférence, Laurent, nous parlions de cette notion d'émotion. Le mot émotion fait partie de la définition de l'EFT. Technique de liberté émotionnelle, mais au-delà de l'émotion, tu parlais d'une définition intéressante.
Oui.
En fait, c'était une combinaison.
Alors, c'est intéressant parce que j'étais il y a quelques mois avec un thérapeute américain. Je donnerai son nom peut-être dans le pack ou sur le site internet. Il parle de feeling. C'est américain, c'est-à-dire de sentiment. Et dans ce sentiment, il met les émotions, la pensée et l'émotion, la sensation et la pensée.
Ouais.
Il combine ces trois choses-là. Mmh. Et du coup, on ne s'embarque plus trop à savoir est-ce que c'est d'abord la sensation qui précède l'émotion ou la pensée qui crée. C'est un sentiment.
Mais oui.
Et on peut faire. On arrête d'être dans une démarche très intellectuelle où finalement on cherche à comprendre qui précède quoi. Aucun travaux n'est vraiment d'accord là-dessus, enfin peut-être certains, mais en tout cas moi, là où j'en suis de mes connaissances, j'ai bien aimé ce raccourci. Parlons de sentiments, dans ces sentiments il y a l'émotion, la pensée et la sensation.
Oui, ce qui constitue aussi trois portes d'entrée très, très utilisées couramment dans l'EFT.
Dans l'EFT, voilà, on peut activer ces leviers ou aller interroger un petit peu qu'est-ce qui se passe en prenant un biais, l'autre biais, les trois, peu importe en fait, en fonction de ce qui se présente.
Mmh. Alors dans cette souffrance, tu parles d'une composante de déni de soi.
Oui.
Tu peux expliquer ça?
Oui, alors je parle de déni de soi, on peut aussi parler de déni de la tristesse, mais j'ai bien aimé ce terme de déni de soi. Nous observons souvent une relation biaisée dans notre souffrance, à la détresse que nous pouvons ou que nous avons eue. Je recommence ma phrase. Dans la souffrance, nous observons souvent une relation biaisée à la détresse que nous avons eue, car celle-ci n'a pas pu être considérée pendant un événement ou une période de notre vie. Et comme nous étions enfants ou adolescents, nous n'avions pas encore la possibilité de prendre du recul pour attribuer ces moments difficiles et ces circonstances aux interactions non satisfaisantes. Nos besoins d'approbation, de sécurité, de contrôle, d'attachement et même de séparation n'ont pas pu être pris en compte à ce moment-là. Nous attribuons alors nos souffrances, bien souvent, à un dysfonctionnement de nous-mêmes. C'est finalement un mécanisme de défense qui nous permet de donner une cohérence à un environnement affectif dont nous sommes dépendants. J'appelle ce mécanisme le déni de soi, pour faire un peu plus simple. Nous aurons par exemple des personnes qui nous diront dans ce cas-là, je ne sais pas qui je suis, parce que dans l'enfance, ils ne se sont pas forcément sentis reconnus ou accueillis.
Oui, ben ça, je trouve que c'est quand même très courant dans ma pratique et dans ce que j'entends avec d'autres praticiens. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on souffre autant dans cette enfance?
Alors, je vais prendre un petit peu, je vais nous traiter un peu comme une espèce, tant pis.
Oui. nous sommes
une espèce un peu particulière, nous les humains. En effet, nous mettons de nombreuses années à nous développer, on va dire de 15 à 20 ans, à peu près, aussi bien au niveau psychologique qu'affectif, et peut-être que ça prend aussi toute une vie, en tout cas, c'est comme ça que moi je me considère. Et nous sommes l'espèce, par contre, qui reste le plus longtemps dépendant de nos parents et de notre environnement. Je vais même mettre parents et environnement à peu près sur le même plan. Quelque part, c'est des adultes, c'est peut-être des copains d'école, des copines de lycée, etc. Tout ça, ça fait partie de notre environnement. On pourrait dire presque un parent avec un grand P, j'ai presque envie de pas forcément faire une distinction. Nous avons vu précédemment que nos émotions sont l'expression de nos besoins. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Dans cet environnement, nos besoins vont être satisfaits, reconnus ou pas. Les adultes qui nous entourent ont aussi leurs propres histoires et leurs propres carences. Dans certains cas extrêmes, comme dans des situations de maltraitance, nous allons réagir comme nous pouvons pour ne pas trop souffrir. Comme nous sommes dans l'impossibilité de nous soustraire à l'abus, nous allons parfois nous absenter intérieurement pour tenter de ne plus être affectés. Une fois adultes, on n'a plus au-dessus de soi des parents, qui menacent, frappent, hurlent ou se montrent absents ou inattentifs. Mais le pli est pris. Il est difficile de recontacter à nouveau son ressenti, son émotion. Dans d'autres cas, des humiliations, difficultés au cours de l'apprentissage, nous avons pu nous trouver dans des situations que nous avions du mal à accepter. Notre sensibilité, notre vulnérabilité, nos fragilités, notre solitude, nos impuissances, simplement parce qu'elles n'étaient pas considérées par les adultes, on a appris alors à mettre de côté tous ces sentiments, comme Oscar tout à l'heure. Il s'est retiré un petit peu. Et forcément, il ne connaît plus son corps. Et quand il lui envoie un signal, c'est la panique. En tout cas, c'est l'interprétation de la panique. Et d'ailleurs, le travail que je lui ai proposé, c'est de réattribuer ces sensations à quelque chose de naturel, comme une information. Voilà. Et cela, et parfois même pour tenir un environnement extrêmement hostile, quand nous vivons dans un environnement très hostile, plutôt que de le juger hostile, parce que nous n'avons pas forcément ce recul, et puis nous n'avons pas forcément envie, on a besoin de garder des parents au moins intérieurement comme valables, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On va se juger, on va réviser les différents aspects de soi, pourtant essentiels, et les rejeter.
Oui, ça ne peut pas être de leur faute, donc c'est forcément la mienne.
C'est forcément la mienne. Et peut-être d'ailleurs qu'en thérapie, l'objectif, ce sera à un moment de dire, mais ça, c'est pas tout de suite, puisque je pense qu'il faut vraiment honorer tous ces aspects, c'est de dire, finalement, si c'était la faute de personne.
Oui.
Ça, c'est un peu un objectif à court ou moyen terme, mais bon, ça vient.
On frôle l'utopie.
Voilà.
Mais c'est vrai que c'est l'objectif.
Oui, parce que finalement, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? On devient un espèce de parent exigeant, un dictateur de soi. On n'accepte pas, par exemple, nos difficultés d'apprentissage. Je ne sais pas pour toi, mais moi, par exemple, j'ai eu de grosses difficultés à apprendre l'anglais. Et j'en suis longtemps voulu. J'avais une prof extrêmement exigeante, qui était adorable, par ailleurs. Et du coup, j'ai intégré comme je n'y arrivais pas à ce moment-là, j'étais peut-être préoccupé par plein de choses, les filles, je ne sais pas, plein de choses que je découvrais à l'adolescence. Je me suis aussi invalidé dans ma capacité d'apprentissage. Et après, ça a continué. C'est-à-dire que, heureusement pour moi, je n'ai bugué que sur l'anglais et pas sur le reste. Bon, je travaille avec l'EFT là-dessus, je finirai sûrement par apprendre l'anglais.
Et aujourd'hui, ça ne t'empêche pas de suivre des enseignements en américain, en anglais.
Oui, à partir du moment où il y a du chemin de fait, et j'arrive parfois même à comprendre ce qu'il dit sans traducteur. Ça arrive. Et même à parfois à poser des questions.
Ok, alors est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce parcours, comment on se coupe de ces sensations?
Oui, alors peut-être je vais donner un exemple clinique si tu permets. Je vais parler d'Arthur. tu es un homme de 35 ans, que je suis, sorte de grave dépression, suite à un licenciement assez violent. Il a été, je l'ai suivi une première fois, il a été hospitalisé, je l'ai resuivi. Il va mieux, mais il me fait part de sa volonté de rechercher à nouveau du travail. Et en même temps, il a très peur. Il angoisse alors qu'il entame les démarches pour cela. Au moment d'aller à la NPE, au moment de regarder sur Internet, voir ce qui se passe sur le marché du travail, il a un stress. Il a l'impression du coup d'être un feignant, car c'est difficile de se remettre pour lui dans la recherche du travail, et il a probablement de bonnes raisons pour ça. C'est ce que je vais explorer avec lui. Je connais un peu son histoire, donc je vais un petit peu résumer. Dans son enfance, ses parents ont eu des difficultés assez graves. La famille l'a disqualifié devant Arthur, ses parents. Il s'est promis de n'être pas un feignant, tout en ressentant une blessure, parce qu'il était blessé par ce rejet de ses parents, tout en ayant peur lui aussi d'être un feignant et d'être jugé et rejeté.
On a accusé ses parents d'être des feignants.
Oui, voilà, ils avaient des grosses difficultés, à la fois financières et ma foi, de santé. Et du coup, lui-même avait cette peur adulte, finalement, de ne pas être à la hauteur. C'est sûrement une peur assez rare, j'imagine.
Oui, j'en avais déjà entendu parler, oui. C'est intéressant, j'ai cet exemple-là.
Adulte, il a fait des études comme rêve de travailler pour une ONG, ce qui a été sa première bonne expérience professionnelle. Puis après, pris par la logique des recrutements et une envie de voyager, il a accepté des missions commerciales dans plein de pays, en fait, des horaires et des rôles, mais qui, ces horaires et ces rôles n'étaient pas en conformité avec son éthique. Alors, on demandait beaucoup de travail, il allait jusqu'à l'épuisement. On lui demandait parfois même de commercialiser ou de favoriser la commercialisation de produits qui n'étaient pas en accord avec son éthique, ou du moins qu'il ne jugeait pas utile aux clients à qui il devait les vendre. Donc il s'est trouvé un peu en porte-à-faux. Au bout d'un moment, évidemment, à force de faire des heures, de ne pas faire ce dont il a envie, il craque. Et, mais s'il craque, pour lui, c'est pas parce que ce qu'il fait ne lui correspond pas.
Non. C'est parce qu'il est feignant.
C'est pas non plus parce qu'on lui demande de travailler 60 heures par semaine. Samedi, dimanche, évidemment, avec l'ordinateur. Enfin, on a tous des exemples, je pense, autour de nous, de choses comme ça. Il y a de plus en plus de plaintes pour le burn-out actuellement. Bon, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Mais quand il m'a parlé de ses peurs, j'ai proposé une ronde EFT. Non pour lever cette peur, mais plutôt pour l'honorer. Elle est importante. Dans ce cas précis, elle est même salutaire. Son corps envoie un message d'alerte. « Ne me renvoie pas dans ce milieu mauvais pour moi. J'ai envie de fuir. » Il a raison. J'ai donc proposé une approche paradoxale. Alors, j'ai un tout petit peu décrire ce que j'ai proposé comme phrase d'introduction en tapotant sur le point qui a raté. Et puis peut-être que, on va en discuter un petit peu, si tu veux, pour un peu expliquer ce que je commence à mettre en route dans ces tapotements. Alors, je vais lui proposer, par exemple, je lui explique où est le point qui est raté, il connaît sûrement, même si j'ai de bonnes raisons de me trouver feignant, à ne pas vouloir recommencer à travailler. Franchement, j'exagère, ma famille avait bien raison de me traiter de feignant, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter. J'introduis cette phrase, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter, au moins elle ne crée pas de conflit, c'est pas un je m'aime, je m'accepte, et puis c'est quelque chose que j'avais appris dans les précédents congrès, jusqu'à l'an dernier notamment, et donc je l'ai utilisé, puisque toujours dans cette dynamique de partage, c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire ça.
Là, le conflit pour Arthur était trop fort, il n'était pas prêt à dire je m'aime et je m'accepte.
Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis après j'ai rajouté une deuxième phrase, même si j'ai de bonnes raisons de me rejeter car je suis incapable d'atteindre des objectifs auxquels je crois et qui sont bons pour moi et pour mes clients, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter. Donc là je commence un petit peu éventuellement même à lui dire des contre-vérités, des choses avec lesquelles il n'est pas forcément en accord, mais c'est quand même ce qu'il se dit et c'est quand même ce qu'il met en jeu dans ce rejet de lui-même.
Donc tu les resserres en amplifiant son propre discours intérieur, en fait.
C'est ça. Je lui amplifie son propre discours intérieur.
Pour mettre en lumière l'absurdité de la chose.
L'absurdité, puis d'éventuels ressorts, qu'on va voir un peu après. Et après, je fais un troisième même-si en lien avec son histoire. C'est-à-dire que je fais trois même-si différents sur le point karaté. Là, j'ai mis, même si j'ai de bonnes raisons de me rejeter dans la peur du travail, c'est vrai que ma famille avait raison de disqualifier ceux qui ont des difficultés au travail. Moi aussi, je pense que les gens qui sont en arrêt de travail sont des feignants. je m'ouvre à la possibilité de m'accepter. Évidemment qu'il ne pense pas ça. Je le sais, et il le sait que je sais qu'il ne pense pas ça. Simplement, là, je mets vraiment en relief un peu ce qu'il peut se dire sur lui.
Ouais.
Et lui dire, voilà, tu ne te le dirais pas sur les autres, mais tu le dis sur toi.
Ouais.
Hein, après, pendant la ronde ST, j'ai décrit les différentes situations et les aspects et pensées dont il avait parlé pendant les séances. Je travaillais tant d'heures, j'ai accepté de faire des missions qui étaient difficiles, pénibles, j'étais épuisé le soir, j'ai même pris des risques en prenant ma voiture, tellement j'étais fatigué. Donc du coup, ce que je fais en tapotant sur les différents points d'autopression, c'est vraiment d'être très descriptif dans les faits.
Mm-hmm.
Je mets aussi les pensées, éventuellement, ce qu'on appelle les cognitions, éventuellement les émotions, parfois les sensations, mais je trouve important de consacrer au moins une ronde, hein, si vous le faites vous-même, sur les faits tels qu'ils sont, très descriptifs, c'est-à-dire je travaillais à tel endroit, je faisais tant d'heures, mon patron m'a demandé ça, j'ai vécu là un conflit. Là, on commence déjà un petit peu à être un peu plus raffiné, mais vraiment de décrire les faits, et quelque part, j'allais dire, de le balancer sur notre système énergétique, pour que lui fasse le boulot, s'il sait le faire. Hein. Mm-hmm. C'est notre corps, en fait, qui va se mobiliser et nous favoriser un dégagement émotionnel là où il y a des crispations. Et là, dans ce cas-là, en fait, rapidement, au cours de la deuxième ronde, je vais lui proposer aussi, je vais lui demander si un peu de place pour honorer sa détresse, son courage, car je l'ai vu hein, dans ces moments-là, épuisé, fatigué, qui exprimait de la souffrance, de la détresse. Et je lui dis, mais qui vous a considéré à ce moment-là? Je peux même aller jusqu'à proposer un pont avec le passé. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous étiez tout seul, vos parents étaient hospitalisés, vous étiez tout seul dans votre chambre à entendre parfois des critiques, mais qui vous a accueilli? Et finalement, la proposition, c'est que aujourd'hui, maintenant, je m'accueille. Ça, c'est la démarche. Car le pouvoir, il est la personne d'autre. Donc c'est un petit peu une démarche qui vise à reprendre le pouvoir dans son histoire. Alors là, j'ai fait un condensé. Ça peut arriver sur une séance, parfois il faut plusieurs séances, mais on peut aussi articuler tous ces aspects hein, de nous-mêmes, de ce qu'on pense de soi. Est-ce que j'étais trop rapide ou c'est...
Non, je crois que c'est... Pour moi, c'est tout à fait logique. Que tu racontes.
Bon, d'accord.
Par contre, j'ai une question. Je voudrais savoir comment, parce que là, tu parles de paradoxe.
Mm-hmm.
Moi, je connais ça sous le terme de thérapie provocatrice.
Oui, c'est pas mal, ça.
C'est une idée de balancer des vérités qui cherchent un peu à rencontrer l'absurde.
Oui, c'est ça.
On est un peu aux limites.
Oui, tout à fait.
Alors, comment faire ça dans le cadre de la relation thérapeutique, comment tu t'y prends pour bien installer la confiance?
Eh ben, avant de
faire ce genre d'approche.
Oui, parce qu'évidemment,
lignons-le. On ne va pas forcément faire ça dans une première séance.
On ne va pas faire ça dans une première séance ni une première rencontre. Avec Arthur, je le suis depuis 2-3 ans. Je l'ai accompagné. Il a confiance en moi. J'ai confiance aussi en lui et dans ses processus. Il a beaucoup d'humour. Et très souvent, nous jouons sur ces ressorts-là. Il sait, franchement, que je ne pense pas qu'il est feignant. Je sais qu'il le sait, et je sais que, toi comme moi, si on dit à un patient qui pense quelque chose comme ça négativement, ce n'est pas vrai, et là, ça ne marche pas. Autrement, on ferait des thérapies très, très brèves. Sauf que c'est vraiment ancré en lui. Et donc, simplement en jouant sur ce paradoxe, sur cette provocation, hein, c'est vraiment plus juste. Nous favorisons une réappropriation de lui-même, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut peut-être attribuer une autre vérité avec des faits et commencer un peu à se détacher de ce rejet de lui-même qu'il a mis en place avec de bonnes raisons, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement.
Mais oui.
Est-ce que j'ai un petit peu expliqué c'est vraiment un chemin en fait que j'essaye de mener avec ma patientèle, c'est de toujours finalement essayer de tout mettre un peu dans une même marmite. Alors parfois on peut se faire en une seule séance, parfois c'est en plusieurs, mais c'est vrai qu'on ne peut travailler que si la personne en face de nous se sent en sécurité, se sent accueillie, si le lien est fait. autrement, je ne vais pas m'amuser à faire ce genre de choses. Je resterai éventuellement avec des protocoles très classiques pour renforcer les ressources.
On peut très bien utiliser le C de toute façon.
Oui.
Même si la confiance n'est pas encore établie, on peut très bien, moi je dirais que c'est même recommandé, de tapoter dès la première rencontre.
Oui, tout à fait. En général, je propose toujours, d'abord parce que ça permet de montrer, ça dit aussi un peu qui je suis, comment je travaille. Et puis, c'est aussi finalement l'occasion d'une conversation, puisque quand on fait une ronde de SP, on cause malgré tout.
Oui.
Donc moi, je propose un peu ce que j'ai ressenti. Et ça me permet de renvoyer, est-ce que j'ai bien compris? Et je demande à la personne de corriger, et je précise en général toujours que il y a un seul boss dans ce bureau, c'est la personne. Et qu'elle corrige, elle dit non, elle dit stop. Je vérifie si elle se sent en mesure, évidemment, de pouvoir me dire non à ce que je vais proposer. Et c'est toujours que des propositions. Voilà. Et je peux me tromper d'ailleurs.
Oui, c'est important de le rappeler.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, avec l'EFT, c'est qu'on va vite assister, du coup, à des blocages. C'est le corps qui est sollicité, et la personne des tapotements, et c'est lui qui va nous indiquer où on en est. Dans ces cas-là, par exemple, même de la première séquence, séance de thérapie, je vais toujours demander si la personne est confortable ou non. L'objectif est qu'elle parte confortable du bureau. Toutefois, parfois, il y a quelque chose de mobilisé, que bon, c'est parfois pas si confortable que ça.
Oui.
Je pense notamment aux personnes qui sont en état de dépression. Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est pas tout à fait la même pratique, je pense, quand on travaille en institution que quand on travaille en cabinet. Il arrive que des gens qui soient hospitalisés sont dans des états émotionnels très 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 fragilisés. Toutefois, on peut quand même commencer à travailler des choses. Et s'ils sont dans un état de tristesse, par exemple, très grand, on va travailler sur un état de tristesse en essayant de lier à des événements. Parfois, on ne les a pas. Pas tout de suite, ça prend un peu de temps. Et de façon à favoriser au moins une première psychodynamique de résolution des problèmes. Parfois aussi, il peut y avoir des traitements, il peut y avoir des tas de choses qui sont mises en route. Souvent, en général, moi, ce qui peut bloquer la pratique, c'est l'épuisement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est épuisé, je pense que la règle, c'est déjà qu'elle se repose. Donc, dans ces cas-là, je vais plutôt favoriser cela en clinique et dans une relation avec la dépression.
Voilà. Et dans ton expérience avec des patients dépressifs, est-ce que la question a été évoquée parfois dans certains articles, certaines études? Est-ce que tu trouves que le traitement antidépresseur a une interférence avec le traitement EFT?
Alors, dans mon expérience, je dirais non. Non. Alors, parfois, il est important de prendre du temps. Comme je disais, si la personne est mal, épuisée, que le traitement commence à être mis en route, parfois il faut à peu près 3 semaines, si ma mémoire est bonne, c'est pas mon métier, mais c'est ce que m'ont dit mes collègues, à peu près 3 semaines pour essayer un traitement. On attend aussi des effets positifs du traitement. Et du coup, un petit peu, une forme de dépression aussi biologique qui s'inscrit au niveau du corps puisse être levée pour qu'on puisse commencer à travailler. Moi, la métaphore que j'emploie avec les patients qui viennent me voir, par exemple, au moment d'un premier entretien, quand ils sont hospitalisés, j'ai dit, écoutez, c'est comme si vous étiez en train d'escalader, de pédaler avec votre vélo, et que on vous demandait de monter la côte, vous savez, du Mont Ventoux.
Oui.
Où on voit les coureurs du Tour de France qui suent, etc., les pauvres, qui souffrent, et alors je leur demande, on va vous demander de pédaler, si je vous propose de faire des choses trop intenses, vous allez devoir pédaler, vous allez devoir faire des efforts, alors que la seule chose dont vous avez besoin, c'est de quitter ce vélo et de vous poser tranquillement. Donc je leur demande avant toute chose de se reposer. Alors on peut aussi causer, on peut faire d'autres choses, on peut aussi pratiquer l'EFT en mobilisant les ressources, je crois que c'est Jean-Michel Duret l'an dernier, on avait une chance de parler, c'est ça. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire, c'est de valoriser par exemple qu'ils sont en sécurité ici maintenant, qu'ils ont fait une démarche pour se soigner, et que ça tout le monde ne le fait pas. Honorer un peu ce courage qu'ils ont.
Oui, oui, et comme tu disais tout à l'heure, honorer aussi les sensations de culpabilité, de responsabilité qu'on peut avoir par rapport à ça.
Oui,
remettre les choses en contexte.
Remettre toujours les choses en contexte, et le contexte actuel, parce qu'on parle, on allait traiter les choses du passé, etc. Ok, on peut vraiment imaginer que la dépression est liée à plein de choses.
Ouais.
Et il y a aussi un moment présent, et le moment présent, c'est aussi parfois une espèce d'urgence à être pris en considération, ici et maintenant.
Ok, alors revenons à ce déni de soi. Comment peut-on le traiter et comment sortir de là?
Alors, même si l'EFT est un puissant facilitateur et véhicule pour se comprendre, il est nécessaire aussi de se donner du temps, comme je disais à l'instant, pour rencontrer. Dans le cas d'Arthur, qui connaît bien cette technique, nous l'avons souvent utilisé. Hein. Je reprécise ça un petit peu pour remettre bien ce contexte-là.
Ouais.
Et donc, comme tout à l'heure je disais, je peux me permettre de lui dire tout ce que je lui ai dit, parce que nous avons un lien, ouais. Un lien qui s'est créé. Pas dans une première relation, ni dans un contexte de dépression. Même si là, il est mal, il y a tout ce passé entre nous, ce passé relationnel, qui va favoriser aussi, pour lui, la possibilité d'attribuer une autre vérité sur lui-même.
Mmh.
C'est pour cela que je propose, hein, comme tout à l'heure je le disais, cette articulation entre les faits et ce que le consultant peut se dire de négatif sur lui, à propos des événements douloureux. Et dans la même phrase au cours de la ronde, d'honorer, surtout d'honorer, cette détresse, ce courage dont il a fait preuve. Parce que c'est ça que nous faisons en tant que thérapeute, hein, c'est de prendre en considération un vécu, quelque part. C'est toujours ça. Et si on prend en considération un vécu du présent, du passé, c'est déjà un premier acte. Et c'est un acte de vie. C'est-à-dire qu'il s'inscrit, il est mémorisé. C'est de la vérité. Ça peut devenir en tout cas une autre vérité.
Donc on peut ouvrir des portes, comme on disait tout à l'heure, on peut arriver à annoncer des vérités différentes, peut-être.
Oui, nous favorisons finalement une proposition de choix vers une plus grande considération de soi. Hein. C'est un petit peu ça que je voulais dire tout à l'heure. Tu as appelé ça provocation, j'aime bien ce mot-là, je te le pique. Il me plaît bien. C'est vraiment une démarche qui vise à la liberté des différentes émotions. C'est ça le mot EFT, c'est la liberté de différentes émotions. Ça ne veut pas dire les annuler, ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes ou mauvaises. C'est qu'elles sont là en nous et honorons-les. Alors évidemment, on n'aime pas ça toujours. Mais bon, c'est une démarche, hein, une démarche qui peut prendre un peu de temps.
Oui, voilà. Et c'est notre vérité sur le moment.
Et c'est notre vérité sur le moment.
Alors je crois que tu avais un modèle théorique à nous proposer pour illustrer un peu, enfin trouver une façon d'expliquer pourquoi le EFT marche.
Oui, parce que alors là, j'ai réfléchi, je me suis dit, si je devais expliquer à des confrères, puisque quelque part, ça, c'est vraiment ce congrès qui m'a aidé à faire ça, si je dois expliquer ce que je fais, comment je vais l'expliquer? Parce qu'après, on pourrait me dire, je travaille avec mon ressenti, avec mes habitudes, et j'ai vraiment intégré l'EFT dans ma pratique. Donc, finalement, c'est devenu comme un automatisme, aussi bien en moi, que dans mes relations,
oui,
avec les patients.
Ça devient une sorte de mode de vie, en fait.
C'est une mode de vie. Donc, ce qu'on a appris avec l'EFT, finalement, c'est un modèle théorique. Hein. Le modèle qui nous a été donné par Gary Gregg, que je trouve pertinent, en tout cas, c'est que tout problème, si ma mémoire est bonne, hein, tu vas m'aider, c'est que tout problème somatique ou psychologique est lié à un problème énergétique.
Un blocage énergétique.
Voilà. L'EFT va nous permettre de débloquer ce blocage et de favoriser, du coup, une résolution des problèmes dont on parle, donc qui sont donnés, qui sont apportés par nos clients.
On dénoue ce blocage énergétique et, du coup, la somatisation ou le problème, la peur, l'émotion,
disparaît. Et d'ailleurs, qu'on soit acupuncteur ou pas, bon, moi, en tout cas, je ne suis pas acupuncteur, donc quand j'ai j'aimais bien toute cette médecine chinoise, c'était intéressant, mais je n'ai pas le temps de faire 6 années d'études, hélas, pour le moment, pour devenir acupuncteur. Donc j'ai adhéré un peu à ce modèle. Toutefois, ce n'est pas un modèle psychologique, et je suis psychologue. Donc j'ai cherché un petit peu à me dire, qu'est-ce que moi j'observe? Parce que dans les faits, je vois que ça aide les patients. Et quelque part, le pourquoi du comment, bon, ça m'intéresse, hein, au niveau intellectuel, mais c'était pas forcément ma tasse de thé. Et finalement, pour cela, j'ai pris un modèle théorique que je vais utiliser, que je vais vous proposer rapidement. C'est un modèle intégratif qui a été développé par Jeffrey Jung et Beck, hein, qui sont des psychologues new-yorkais. L'apport majeur de Jung a été l'identification, peut-être que je donnerai d'ailleurs on donnera les références, hein, c'est ça. L'apport majeur de Jung a été l'identification des schémas précoces inadaptés et des modes et des stratégies d'adaptation. Je propose ce modèle car il continue d'illustrer mon propos de tout à l'heure sur les mécanismes de défense, en fait, mis en place. Mais il va plus loin et c'est aussi pour moi l'occasion de partager ma compréhension du pourquoi ça marche.
Mais qu'est-ce que tu entends par un schéma précoce inadapté alors ?
Alors, la définition de Jung est la suivante. Un modèle, un thème important, constitué de souvenirs, d'émotions, de pensées et de sensations corporelles concernant soi-même et les autres, constitué au cours de l'enfance et de l'adolescence, enrichi tout au long de la vie de l'individu et dysfonctionnel de façon significative. Les schémas précoces inadaptés, qui s'élaborent au cours de l'enfance et de l'adolescence, continuent à s'enrichir tout au long des expériences de la vie. Même s'ils sont inappropriés, s'ils ne servent plus à rien, ils sont même nuisibles parfois, comme nous l'avons évoqué avec Arthur. En fait, la personne adulte qui fait l'expérience de l'activation d'un de ces schémas vit cette expérience d'une façon semblable à ce qu'elle a vécu lors de l'élaboration de son schéma initial. Il est question ici de continuité cognitive, de vision stable de soi-même et du monde, même si celles-ci sont en fait imprécises et erronées.
C'est un peu comme une boule de neige qui s'est formée à partir d'un caillou ou bien d'une pépite d'or, on n'en sait rien, mais ça roule, ça roule, ça roule.
Et ça fait un espèce de condensé après. Tout à l'heure, par exemple, nous avons parlé d'Arthur et de son sentiment d'être feignant. On est d'accord que c'est une interprétation distorsionnée de la réalité. Mais c'est sa réalité. Et c'est avec ça qu'il s'est construit. Pas avec cet événement-là. Mais cet événement-là a renforcé ce schéma.
Et l'EFT, alors, qu'est-ce que ça va nous apporter?
Alors, en tapotant, nous convoquons la totalité du schéma. Les souvenirs, les émotions, les pensées et les sensations corporelles. Ce qu'on parlait tout à l'heure, le feeling. Et ainsi que les comportements. On va convoquer quelque chose de plus aussi.
L'événement initial qui a donné lieu à cette boule de neige, mais aussi tout ce qui est venu la renforcer par la suite.
Exactement. Alors, peut-être parfois en une ou plusieurs séances. Mais on peut parfois faire une espèce de condensé. Moi, j'aime bien faire ça, surtout avec quelqu'un avec qui je suis bien installé, comme on disait tout à l'heure. Bon, une première séance, j'éviterai quand même. D'accord Mais vous pouvez essayer chez vous, ma foi, mais avec douceur. Je vous invite vraiment à prendre votre temps quand même. Nous allons fusionner tous ces éléments du schéma. Nous allons ainsi favoriser un climat propice à un processus psychologique dynamique. C'est-à-dire que là où il y avait de la stagnation, ça ne bougeait pas. C'était quelque chose un peu installé. Je suis feignant. Nous allons favoriser quelque chose de plus léger, plus confortable, où il y aura un autre réaménagement possible. Ça sera plus léger, moins condensé, un peu plus vivable. Est-ce que j'ai été à peu près clair?
Oui, bon. Pour moi c'est clair.
par exemple, je veux dire, en utilisant un souvenir ou un parcours de vie, en fait ce qui se passe, c'est que nous favorisons la rencontre avec tout le matériel, qui est souvent long à mobiliser dans des thérapies uniquement verbales. Ce qui ne signifie pas forcément que cette approche thérapeutique soit brève, d'accord. Là, on voit que ça peut prendre du temps quand même, parce que nous sommes pour des personnes qui ont quand même des souffrances complexes, dans lesquelles il faut vraiment prendre plusieurs choses en considération. Quand on commence à toucher ce genre de choses, c'est vraiment des comportements qui sont installés, qui sont parfois addictifs, qui sont parfois dévalorisants et qui sont installés qui interrogent vraiment plusieurs registres de notre vie. Donc, ça prend un peu de temps aussi, mais ça facilite en tout cas un confort qui peut naître. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que la personne apprend aussi. Les patients apprennent l'EFT tout de suite. Parfois, ils ont envie de le faire eux-mêmes, parfois pas. Moi, en tout cas, ma position, c'est toujours leur dire, ne le faites que si vous avez du confort à le faire chez vous. Autrement,
c'est pas un devoir, c'est un atout supplémentaire dont ils peuvent se servir.
Voilà. Si c'est confortable pour eux, si c'est facile, qu'ils le fassent autrement. Je suis là aussi pour ça. Et voilà, on peut aussi le faire ensemble. Parce que très souvent, c'est des personnes qui ont été seules. Je vais pas leur demander de faire quelque chose toute seule chez elles. Ça serait presque ridicule quand même, on va dire. Et puis, donc je préfère, dire ok, on est deux maintenant. On partage.
Alors, quels sont les leviers possibles pour s'occuper de ce schéma précoce inadapté dont tu parles?
Alors, en fait, dans ces leviers, par exemple, on va prendre une sensation, par exemple, qui peut arriver. Par exemple, mettons, je ne sais rien, d'accord? La personne peut arriver avec une sensation ou un événement, donc là, c'est une pensée, par exemple, ou une émotion, d'accord? Donc, on va prendre un levier. On va prendre les trois, par exemple. Parfois, si on peut avoir ressenti, pensée, émotion, c'est presque un idéal, mais c'est pas un idéal nécessaire. Donc, on va prendre du coup, on va pouvoir convoquer là l'ensemble un petit peu de la pierre à l'origine éventuellement de ce qu'on en sait d'expérience dont on parlait tout à l'heure, hein, et donc favoriser un tout petit peu une dynamique, un petit peu comme si on imaginait des planètes en train de tourner autour d'un axe et qui ont capturé des astéroïdes, qui sont renforcés dans une espèce de comme tu disais tout à l'heure, une boule de neige où vraiment on ne sait que répéter, s'en mettre plein la figure et on comprend pas pourquoi, parce que quoi qu'on fasse, on a beau faire tous les efforts, dire tiens, je vais arrêter de fumer, je parle pour moi, ça marche pas, etc. Déjà, commençons par considérer un peu la détresse, hein, déjà, parce que on se valide, en tout cas nous validons ensemble, je valide la détresse de la personne, et puis aussi on va utiliser des leviers qu'on va trouver pertinents, en faisant par exemple une ronde EFT, sur même si j'ai cette sensation, comme on verra tout à l'heure, douloureuse, et que je pense de moi que, par exemple, j'étais feignant, j'ai vraiment de bonnes raisons de penser ça, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter. On a produit déjà une petite touche, si on ne peut pas faire trop. Des fois, on convoque le schéma juste de façon très parcellaire. Hein, on peut vraiment avec douceur.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des forces. La douceur fait partie des forces de l'esprit.
Oui, tout à fait.
Alors, justement, en introduction, tu as parlé de cette douleur que tu avais à l'épaule,
oui.
Et qui t'a permis de dégager toute une empreinte émotionnelle.
D'accord. Ce serait peut-être bien que je parle un petit peu de ça, effectivement, c'est très intéressant. Alors, je vais te parler, si tu le permets, d'une dame qui est venue, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant pour illustrer un peu ce qu'on vient de se dire.
Mm-hmm.
Elle vient, et c'est quelqu'un elle vient à l'origine pour un burn-out professionnel, où elle a vraiment subi des choses difficiles dans son travail, on lui a beaucoup demandé, on l'a changé de département, on l'a mis dans une autre fonction, c'est une femme très très brillante, qui est très motivée dans son travail, qui est très engagée, et qu'on a un peu brimée, on lui attribuant un poste qui n'était pas le sien, en l'empêchant d'aller dans un département qui était plus concerné, comme elle a eu 4 grossesses, évidemment, les femmes savent ce que c'est, je crois qu'il y a une conférence qui a bien parlé de ça. Et donc je crois que c'est vraiment aussi important de noter que voilà, il y a tout plein de choses qui favorisent qu'elle est vraiment en dépression. Donc on a traité plusieurs éléments en fait. On a bien avancé sur son histoire, sur les difficultés à son travail, hein, qui commence un peu à s'adoucir. Et puis, sur sa relation à soi, parce que par exemple, elle était au travail, évidemment, elle aussi, c'est quelqu'un qui est très battante, donc elle s'imaginait qu'elle était faible, et on a pu simplement aussi honorer qu'elle avait besoin de se reposer. Hein. Mmh. 4 grossesses, beaucoup de travail, un mari qui travaille énormément, une maison à s'occuper, enfin, voilà. Plein de choses qui ont émergé et qui ont été finalement interrogées par cette dépression qui tombait peut-être à point pour qu'elle prenne un peu de temps pour elle.
Oui, qui était une fois de plus un signal d'alerte utile et nécessaire à ce moment-là.
Voilà.
Même si il n'était pas spécialement agréable et bienvenu pour elle.
Et qu'elle le ressentait bien passé,
oui.
Même si elle commence un peu à capter, à comprendre ce qui s'est passé là.
Oui.
Et alors ce matin-là, c'est vraiment intéressant parce qu'elle vient. Après, ça va bien. Et c'est vrai. Je la sens bien détendue, elle s'installe en face. Commence par causer un tout petit peu, et puis elle me dit, je n'ai pas grand chose à vous dire en fait ce matin, presque pas envie de venir en fait. Je dis, ah oui, bon, bah, voilà, c'est bien, on parle un petit peu des enfants, etc. Et puis juste, elle me dit, tiens, j'étais pour un ostéo, j'ai un peu mal à la nuque là. Et je dis, bon, bah, on cause un petit peu, je note le truc un peu là dans un coin. Puis au bout d'un moment, je me dis, écoutez, bon, si on traiter la douleur. Et c'est vrai que je me suis plutôt ouvert, en fait, il ne se passait rien. Je me suis dit, allez, peut-être que ça fait partie de la relation, même si elle est traitée par un ostéo, que je suis très compétent, avec lequel elle a un bon lien. Je lui propose un petit peu de cette entrée en matière, un peu comme pour essayer. Vraiment, j'ai aucun a priori, si je ne sais pas si ça va donner quoi que ce soit, mais après tout, au pire, ça ne fera rien. Hein. C'est ça qui est intéressant dans la douleur, si vous l'essayez pour vous, c'est qu'au pire, ça ne vous fait rien. Hein. L'EFT, il n'y a pas de contre-indication, il me semble, hein, on se peut entendre. Hein. Donc, je lui demande un petit peu de préciser cette douleur, de rentrer en contact. Cette douleur, elle est derrière la nuque. Elle me dit, c'est comme un coup de bâton sur la nuque. Alors, autant parfois je peux faire des protocoles un peu compliqués, comme on a vu tout à l'heure, avec des phrases un peu alambiquées, que là, je vais être très clair et très facile hein, dans la formulation. C'est même si j'ai un coup de bâton sur la nuque, je m'aime. On peut dire je m'aime maintenant avec.
Ça va, elle en était là.
Ouais, on peut. Allez. Et donc, on fait simplement une ou deux rondes sur ce qui vient. Et là, elle a une association corporelle qui parle d'une espèce de tension dans la poitrine. Elle a un pic à un moment. Donc, on commence par la tension, puis on arrive au pic. Un pic, comme, je lui dis, c'est quoi ce pic? Et alors là, elle me dit, c'est comme un coup de poignard. J'imagine des tas de trucs dans ma tête et je me dis, ok, je l'ai dans ma tête et je fais, même si j'ai un pic dans la poitrine, je propose, je m'aime. Hein, mm-hmm. Je m'aime. D'un seul coup, elle a une autre association, elle voit apparaître une femme. Et c'est la femme qui avait remplacé son père dans le cœur de. Enfin, c'est la femme qui a remplacé, pardon, sa mère dans le cœur de son père. Donc, bon, on prend un temps d'arrêt, là, on cause un petit peu de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça lui fait ressentir. J'invite éventuellement à tapoter un peu sur le point claviculaire. Hein. Mm-hmm. Et c'est vraiment quelque chose que je permets de glisser là. C'est, voilà, c'est un peu l'urgence de la cocotte minute.
Oui.
On remet le sifflet de la cocotte minute. Et voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous tapez sur le point claviculaire. Tapotez jusqu'à ce que vous soyez tranquille. Et si ça vous a évoqué des choses, là, tout ce qu'on dit, tapotez sur le point claviculaire. Je le fais moi-même en ce moment, voilà. Et puis, en fait, donc ce qu'elle m'a dit, c'est qu'effectivement, à 11 ans, son père avait quitté la maison, ils avaient abandonné avec la mère, qu'elle était l'aînée, donc elle avait beaucoup dépensé d'énergie pour s'occuper de toute cette famille. Elle avait le sentiment de porter les choses sur ses épaules, même si aujourd'hui, c'est intéressant, elle s'entend bien avec cette personne et qu'en tant qu'adulte, elle est passée à autre chose.
Mm-hmm.
Donc on a pris un petit temps pour honorer la détresse, hein, être aussi ronde sur cette détresse, même si j'ai souffert à ce moment-là. Et que j'ai une bonne raison de souffrir en tant qu'enfant, je m'aime, aujourd'hui je m'accepte. Et j'ai même proposé un petit peu de rond, est-ce que cet enfant aurait besoin de quelque chose, éventuellement qu'on lui apporte, hein, simplement en y pensant, par la ronde EFT. Parfois je propose par exemple d'imaginer une lumière, ou est-ce qu'il aurait besoin d'un doudou, ou de nous dire quelque chose aujourd'hui, cet enfant-là qui est blessé, et est-ce qu'il est en accord avec ce qu'on fait, voilà. Et en général, ça adoucit la relation.
Oui.
Voilà. J'ai pris cet exemple parce que c'est vraiment intéressant. Il nous donne un peu un fil associatif. Hein, et on voit un peu ce qui peut se passer. Alors, ça peut se passer pour vous si vous le faites tout seul, parfois. Hein. En tout cas, si vous le faites avec Interbut, vous pouvez voir un peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi on utilise ça et comment on le fait. J'espère, en tout cas, vous l'avoir un peu montré. Mmh. Ainsi qu'aux professionnels qui se demandent comment ça marche. En fait, il s'agit de favoriser des processus associatifs. Qui sont là. Donc là, ça peut être le corps, ça peut être les pensées, ça peut être les sensations, pour déboucher finalement sur du confort et éventuellement une réappropriation de sa vie et même des changements de comportement.
Oui.
Sans forcément courir après un changement de comportement, hein, mais c'est possible. C'est possible.
Oui, et ça arrive parfois même sans s'en rendre compte.
Oui. Oui.
Alors, comment passer de ce déni de soi dont on a parlé, ce déni des émotions qui n'ont pas pu s'exprimer, jusqu'à honorer qui je suis?
Ok, alors là je crois qu'on vient un petit peu dans finalement ce que j'ai vraiment voulu dire, et j'espère l'avoir dit, c'est que dans les entretiens avec mes patients où j'utilise l'EFT, ma proposition est d'être toujours dans une espèce de double lien. Un lien avec nos adaptations, nos mécanismes d'adaptation, hein, même dysfonctionnels, concernant un problème, un vécu, une considération de soi, et en même temps d'honorer la véritable détresse hein, qu'il y avait en arrière-fond, qui n'a pas été, elle, prise en considération lors des moments difficiles, qu'ils soient actuels ou lointains, ou les deux, hein, faisons la place. Quelque part, je fais la place à qui je suis, comme je suis, à cette détresse. Je fais ainsi souvent des ponts passés, présents ou inversement, en jouant même sur une attitude future pour favoriser une réappropriation de soi. Hein. C'est-à-dire, même si dans le futur je rencontre ça, je m'aime, je m'accepte ou je m'ouvre à la possibilité de m'accepter. Parce qu'il ne s'agit vraiment pas d'heurter nos mécanismes de défense. Après tout, ce sont des gardiens. Hein.
Ce sont les
gardiens du temple. Des guerriers qui sont comme mis là pour nous protéger, parfois pour nous faire survivre. Et à l'époque où ils ont été mis en place, ils étaient vraiment pertinents. Ils étaient tout à fait opérants.
Et c'était notre meilleure solution à l'époque.
C'était notre meilleure solution.
Alors, bravo nous.
Merci nous. Oui, tout à fait. Ouais. Et j'ai proposé même de les... Un peu, quand je sens que c'est possible, d'aller jusqu'à les remercier, les considérer autrement. Et aussi, en même temps, de mettre les ressources en avant. C'est-à-dire un peu comme si on mettait une grande table, un grand banquet où on met les guerriers, et puis les sages, les ressources, la confiance, la joie, qui peut côtoyer en face le bourreau, qu'on a le sentiment d'avoir été ou qu'on a avoir eu dans sa vie, un petit peu comme si on imaginait un banquet au Moyen-Âge, je vais prendre cet exemple-là, où finalement tout le monde était là et dans un joyeux bordel se réconcilier.
Voilà, ça me fait penser, Laurent, à tous les albums d'Astérix qui se terminent toujours sur le banquet.
Sur le banquet, voilà. Et il y a la place pour le barbe.
Voilà.
Honorons-le aussi. Honorons-le aussi.
Alors justement, si on laissait chanter le barde, Laurent, dans un protocole pour honorer qui je suis.
Alors pour ça, j'ai envie de vous proposer un texte qu'a dit Mandela pour son investiture en 1994. Finalement, il disait que notre plus grande peur n'était pas de ne pas être à la hauteur, comme on croit souvent, et comme moi je crois, quelque part en moi. Je sais que c'est toujours là.
Oui, comme tu disais tout à l'heure, tu es un cas extrêmement isolé, mais bon, on va quand même le mettre en lumière.
On va le mettre en lumière, et c'est justement ça que nous dit ce texte, c'est que finalement, ce dont nous avons peur, c'est la lumière. Donc c'est un texte, on pourra trouver le lien sur le site, et simplement, je l'ai un peu utilisé, je me suis inspiré pour vous proposer cette ronde FT. Alors, je vais vous proposer, on va tapoter d'abord le point karaté.
Oui. Alors, je vais te demander de découper tes très jolies phrases alambiques dans des portions répétables.
Répétables.
J'ai l'audition, les garder en tête.
D'accord. Même si j'ai toujours en moi...
Même si j'ai toujours en moi...
Une peur de ne pas être à la hauteur.
Une peur de ne pas être à la hauteur.
Aujourd'hui comme hier.
Aujourd'hui comme hier.
Je m'ouvre à la possibilité...
Je m'ouvre à la possibilité
de
rencontrer
un espace de paix.
Oh, un espace de paix.
En moi.
En moi.
Oui. Oh. Même si j'ai toutes les bonnes raisons.
Même si j'ai toutes les bonnes raisons.
D'avoir un profond rejet.
D'avoir un profond rejet.
De mes attitudes.
De mes attitudes.
Et des attitudes que les autres ont eu pendant mon chemin de vie.
Oh, et que les autres ont eu pendant mon chemin de vie.
Et qu'ils continuent à avoir.
Et qu'ils continuent à avoir.
Je m'ouvre. À la possibilité.
À la possibilité.
De m'offrir. Un petit espace.
Un petit espace.
Mais vraiment un petit.
Oh, un tout petit pour commencer.
Pour un accueil. Inconditionnel.
Inconditionnel.
Oui, inconditionnel de toutes mes détresses.
De toutes mes détresses.
Allez, encore un même si. Même si je me disqualifie.
Même si je me disqualifie.
Pour les choix de vie.
Pour les choix de vie.
Pour mes choix de vie.
Pour mes choix de vie.
Mes souffrances.
Mes souffrances.
Toujours présentes.
Toujours présentes.
Et que je m'en veux.
Et que je m'en veux.
D'avoir toujours ces pensées.
D'avoir toujours ces pensées.
Ces émotions.
Ces émotions.
Ces sensations.
Ces sensations.
En moi.
Oh, en moi.
Je peux aussi.
Je peux aussi.
Tout en gardant.
Cette attitude.
J'y tiens.
Parce que j'y tiens.
M'offrir un espace. Pour être. Un parent bienveillant. Et oui, un parent bienveillant où le jugement. A laissé la place. À l'accueil. À l'accueil de qui je suis. On va aller au sommet du crâne maintenant. Ma peur la plus profonde. Et je suis sûrement le seul.
Même si je suis le seul sur la planète à avoir cette peur-là.
Ma peur la plus profonde a été de ne pas être à la hauteur. On va aller sur le sommet du sourcil.
Début du sourcil,
ouais. Merci. Alors, La peur la plus profonde. De toute l'humanité. A été. De ne pas être à la hauteur. Allez, on le refait encore une fois sur ce point-là. J'aime bien. La peur la plus profonde. De toute l'humanité. A été de ne pas être à la hauteur.
Coin de l'œil.
Je partage avec toute l'humanité.
Avec toute l'humanité.
Cette peur. De ne pas être à la hauteur. Oui,
je partage. Je suis quelqu'un de généreux.
Je partage cette peur. Ensuite, sous l'œil, nous partageons. Nous les hommes.
Et les femmes.
Tellement de peur. Et alors là, on va tapoter deux points. Sous le nez et le creux du menton.
Sous le nez et le creux du menton. Si vous n'avez pas les deux mains de libre, vous pourrez le faire avec deux doigts.
Eh oui. Ma honte la plus grande. Et pour tous ces moments. Où je n'ai pas été à la hauteur. Allez, on le refait encore. Ma honte la plus grande. Et pour tous ces moments. Où je n'ai pas été à la hauteur. Allez, point claviculaire, votre ami. Et si en vérité.
Ma peur.
La plus profonde. Et que je suis puissant au-delà de toute limite. Et si en vérité ma peur la plus profonde est que je suis puissant au-delà de toute limite.
Et si en vérité.
Ma peur la plus profonde. Et que je suis puissant. Au-delà de toute limite. Sous les aisselles, c'est vrai que c'est plutôt effrayant. Et sous les seins, c'est effrayant. S'il n'y avait pas de limite à ma puissance. Oui, c'est vraiment effrayant. On va retourner sur le sommet du crâne. Et si, en vérité. C'était ma propre lumière. Et non pas mon obscurité. Qui m'effrayait le plus. Sourcil, haut du sourcil. Et si c'était ma lumière qui m'effrayait. Et si c'était ma lumière qui m'effrayait. Coup de l'œil. Et si, comme toute l'humanité.
Je partageais aussi.
La peur. De ma propre lumière. Allez, on va aller sous l'œil, on va le refaire celle-là. Et si, comme toute l'humanité. Je partageais.
La peur.
De ma propre lumière. À nouveau, sous le nez, le creux du menton. Qui serais-je, moi? Pour être.
Brillant.
Talentueux. Et merveilleuse. On peut dire merveilleux. Point claviculaire. En fait.
Qui suis-je?
Pour ne pas l'être. Qui suis-je pour ne pas l'être? Sous les aisselles. Je suis. Je suis un enfant de la vie. De Dieu.
De l'univers.
Et bien plus encore. Sous les seins, pourquoi ne le serais-je pas au fond? Oui, pourquoi ne le serais-je pas? Sommet du crâne, je suis un enfant de la vie. Je me suis souvent restreint. À vivre petit. Vivre petit ne m'a pas rendu service. Ça n'a pas rendu service au monde. Et puis on va aller sur le sourcil, ou du sourcil. L'illumination. N'est pas de me rétrécir. Pour éviter d'insécuriser ou déranger les autres. Eh oui. Point de l'œil. Avec tous les autres êtres humains. Je suis né. Pour manifester. La gloire de cet univers. Qui est en moi.
Qui est en nous.
Sous l'œil. Au fur et à mesure.
Que je laisse ma propre lumière.
Briller.
Je donne aussi.
La permission.
Aux autres.
De le faire. On va aller à nouveau sous le nez et le creux du menton. La bonne nouvelle.
La bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure...
La bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure...
Que je laisse briller ma propre lumière...
Que je laisse briller ma propre lumière...
Je donne aussi...
Je donne aussi...
La permission...
La permission...
Aux autres...
Aux autres...
De le faire...
De le faire...
Je me permets...
Je me permets...
Et je permets à tous...
Et je permets à tous...
Youpi. Proclaviculaire. En me libérant de ma propre peur...
En me libérant de ma propre peur...
Ma présence...
Ma présence...
Ma présence libère aussi les autres...
Ma présence libère aussi les autres.
La bonne nouvelle.
La bonne nouvelle.
On est rendu sous les aisselles.
Oui.
La bonne nouvelle, c'est que libérer de mes peurs.
La bonne nouvelle, c'est que libérer de mes peurs.
Ma présence.
Ma présence.
Libère aussi ma gratitude.
Libère aussi ma gratitude.
Pour moi.
Pour moi.
Et tous les aspects.
Et tous les aspects.
De cette humanité en devenir.
De cette humanité, en devenir.
Si on la faisait celle-là.
Hein? Ouais.
La bonne nouvelle.
La bonne nouvelle.
C'est que libérer de mes peurs.
C'est que libérer de mes peurs.
Ma présence.
Ma présence.
L'amour en moi.
L'amour en moi.
Libère.
Libère.
Aussi.
Aussi.
Ma gratitude.
Ma gratitude.
Pour moi.
Pour moi.
Et tous les aspects.
Et tous les aspects.
De cette humanité.
De cette humanité.
En devenir.
En devenir.
Les saints, la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle.
C'est qu'en cet instant.
C'est qu'en cet instant.
Au moins une seconde.
Au moins une seconde.
Un tapotement.
Un tapotement.
J'honore.
J'honore.
Avec gratitude.
Avec gratitude.
L'humain.
L'humain.
Sommet du crâne. La bonne nouvelle.
La bonne nouvelle.
C'est qu'en cet instant.
C'est qu'en cet instant.
Au moins une seconde.
Au moins une seconde.
Un tapotement.
Le temps d'un tapotement.
J'honore.
J'honore.
J'honore qui je suis.
J'honore qui je suis.
Merci.
Merci Laurent.
Merci à toi.
On va passer aux questions-réponses.
Ah oui.
Dans quelques instants, tapotez-vous. Notre cher chat n'est pas revenu, mais comme nous avons pu mettre la boîte à questions d'urgence, tout à l'heure, vous pouvez poser vos questions à Laurent, qui a déjà reçu quelques questions qu'il est en train de lire. Alors, oui. À quoi tu choisis de répondre en premier?
Eh ben, je vais prendre la première question qui me vient. Est-ce qu'une thérapie...
Il faut que tu lises la question, parce que comme il n'y a pas de chat, personne n'a vu la question, en fait.
D'accord. Alors, est-ce qu'une thérapie EFT doit toujours être pratiquée de façon exclusive ou peut-elle être associée à une autre thérapie? Pour ma part, moi, je ne crois pas à l'exclusivité de la thérapie, bien que dans ma formation à l'origine psychanalytique, et quand je faisais ma psychanalyse, on ne devait pas avoir d'autres thérapeutes. Aujourd'hui, je pense que les choses ont beaucoup évolué. J'ai notamment des personnes qui sont en psychanalyse et qui viennent me voir pour des traitements très précis au niveau émotionnel, tout en gardant leur psychanalyste et pour un peu comme une fenêtre, aller traiter des problématiques émotionnelles qui ne peuvent pas être élaborées d'un point de vue classique. Je propose à ce moment-là des ronds d'EFT ou une pratique de centration sur des événements un peu délicats qui ont pu impacter encore aujourd'hui la vie de la personne, de façon à favoriser un dégagement et lui permettre de se sentir plus à l'aise et plus confortable. Les personnes continuent leur psychanalyse, viennent me voir par exemple que juste sur un très court moment. Il peut s'agir par exemple d'abus sexuels où la personne a toujours des rêves, ce qu'on appelle un PTSD, c'est-à-dire un syndrome post-traumatique aigu, et que la psychanalyse n'a pas suffi, ou la thérapie analytique n'a pas pu, par exemple, pu suffire à dégager. Et dans ce cas-là, je propose une aide. C'est vrai aussi pour des personnes que je suis, moi, au long cours, où la thérapie EFT ne suffit pas, et où j'envoie chez d'autres personnes, des psychocorporels, des psychanalystes, ou autre, de façon à proposer une complémentarité. Très souvent, j'aime aussi bien envoyer mes patients, leur proposer des soins corporels type ostéopathie ou même acupuncture, de façon à favoriser un mieux-être, un plus grand confort dans leur vie.
Voilà. Dis-moi Laurent, les séances que tu fais durent combien de temps ?
Moi, les séances que je fais durent 40 minutes. Oui. Ça, c'est la séance classique. Après, il m'arrive de proposer des séances un peu plus longues pour des personnes qui viennent de loin, par exemple, où je propose une heure qu'on ait aussi le temps de causer, de faire de l'EFT. Et il peut arriver aussi que je propose des séances d'une heure et demie. Bon, je fais aussi de l'EMDR, donc parfois j'associe les deux pratiques. Voilà.
D'accord.
Est-ce que je passe à la question suivante ? Ça a été, j'ai été assez clair, les filles, là ?
Oui.
Bon. Alors, cette question, j'aime bien. Chaque année, j'appréhende terriblement l'arrivée de l'été parce que je me sens très mal physiquement, émotionnellement, à cause de la chaleur trop élevée. La chaleur m'angoisse. Si je pouvais éviter de sortir durant cette saison, je le ferais. Lorsque la forte chaleur revient, je ressens toujours la peur de perdre connaissance. Et je suis presque persuadée que je vais tomber dans les pommes alors que cela m'est jamais arrivé. J'en parle en psychothérapie, mais la peur est toujours présente. L'EFT peut être efficace dans cette problématique. Alors l'EFT peut être efficace. L'EFT, c'est qu'un outil psychothérapeutique. C'est pas l'EFT qui fait la thérapie. Hein. C'est bien ce que je parlais pendant la conférence il y a quelques instants. C'est ouais. Vraiment le duo. Et donc elle peut s'intégrer effectivement et être efficace, un outil pertinent dans ce cas-là. Moi, par exemple, dans un cas comme ça. On peut éventuellement proposer, même si j'ai peur de la chaleur, je m'aime, hein. Ok, la personne peut le faire qui a écrit cela. J'irai quand même un peu voir c'est quoi les conséquences, c'est quoi les origines. J'essaierai de capter un peu des associations qui peuvent se manifester au-delà de ce symptôme, voir un petit peu qu'est-ce qu'il a organisé ce symptôme, comment il est venu. Il n'est pas là par hasard. Et pas forcément toujours le prendre frontalement. L'EFT permet aussi d'aller directement dans le problème du symptôme, mais j'irai un petit peu dans le contournement avec mon thérapeute pour voir un peu qu'est-ce qui a pu motiver ça, les différents aspects. Et là, après, pourquoi pas faire de l'EFT, mais sur les différents aspects, qu'est-ce que ça peut évoquer, hein, ce problème-là.
Ce qui est intéressant avec l'EFT, c'est que entre deux rendez-vous, le client peut continuer seul sur ses symptômes.
Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant. Et en plus de ça, c'est que on apprend très vite en EFT. Hein, moi, j'ai encore eu des patients ce matin là, qui avaient appris tout seul, en fait, et qui continuent. Oui. Notamment, je pense à un monsieur qui avait eu des problèmes dépressifs avec des syndromes post-traumatiques liés à des cambriolages et qui avait peur de prendre le téléphone. Ces syndromes post-traumatiques ont été résolus, la peur du téléphone est restée, et il continue à le faire, et de plus en plus, il devient confortable, et tout seul, de manière très autonome, et ça, c'est aussi très gratifiant. Oui. Et en plus de ça, moi, ce que je crois vraiment intéressant dans l'EFT, c'est de favoriser aussi une dynamique, c'est-à-dire que on a appris, hein, je vous pense, nous tous, d'avoir avec un protocole assez serré, même si, etc., blabla. On peut aussi pratiquer simplement des tapotements tout le temps, en cours de journée, sur des sensations, des émotions, sans forcément aller chercher le pourquoi du comment. Ça fait du bien, de toute façon.
De toute façon. Moi, en ce moment, j'accompagne quelqu'un qui est terriblement angoissé, qui sortait quasiment plus de son appartement, et je lui ai proposé de ressortir un peu tous les jours. De toute façon, il sortit une fois par semaine pour faire des courses. Donc voilà, on a essayé de voir si c'était pas possible pour lui de ressortir au moins 3 fois par semaine et de tapoter juste les doigts pendant qu'il va jusqu'au magasin et juste les doigts. Juste les poings sur les doigts. Il le fait et ça lui fait beaucoup de bien. Et petit à petit, il commence à récupérer en confiance et il ressent moins d'angoisse. Et pour l'instant, la seule chose qu'il est OK de faire, c'est de tapoter juste les doigts sans se dire de phrases, sans faire des choses compliquées.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce qui ça favorise vraiment l'autonomie et une prise en considération de soi comme on est en fait. Hein. C'est-à-dire même avec cette phobie, je fais ça. Point, comme tu disais toi tout à l'heure dans ta conférence, Noël, je fais ça et point. C'est déjà bien.
La technique du point, elle est super. Ouais, elle a été développée par Sébastien.
D'accord. Ben j'ai appris ça tout à l'heure en t'écoutant. Tu vois, je t'en remercie. Donc, je vais le copier parce que c'est ça qui est intéressant avec le.
Il s'appelle Sébastien Magnano, il est praticien EFT sur Montauban. De temps en temps, on fait la technique du point.
Oui, c'est vraiment intéressant. Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans ce congrès, c'est qu'on enrichit en permanence notre pratique en picorant les miettes données par les copains, les copines qui enrichissent
les
en permanence.
Des
les miettes.
On a été Laurent.
Oui, c'est parce que j'ai un petit appétit.
Alors, Véronique pose une question
oui.
En rapport avec justement le traitement, l'auto-traitement entre deux séances, par exemple, dont on parlait à l'instant. Combien de rondes de tapping peut-on faire? Un tour et on recommence le lendemain ou deux, trois fois au même moment? Merci de votre réponse. Et la conférence m'a bien plu, très intéressante, bravo, qu'elle ajoute.
Merci, Véronique. Donc, écoute, moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je propose, par exemple, si la personne est avec moi en consultation, je fais rarement une seule ronde. Hein. Je vais proposer deux, trois rondes, effectivement. Quand je propose, par contre, un travail à la maison ou que la personne le fasse seule, j'essaie que ce soit vraiment le moins possible, contraignant. Donc, je propose bien 2 minutes par jour et uniquement si la personne est OK avec ça. C'est-à-dire que si elle a un conflit ou que si ça l'embête de le faire, de pas le faire. Et donc, une, deux rondes, pour moi, c'est déjà pas mal hein, quand on est mal.
C'est toujours ça de prix. Hein.
C'est ça de prix. Et du coup, aussi, ça peut-être que ça a l'avantage d'accueillir cette technique sans attendre forcément le résultat tout de suite, sans s'agripper au résultat. Et donc déjà un lâcher prise. Un peu comme Christine disant le parlait dans la guérison, de favoriser finalement un état d'être hein, par rapport à soi, déjà, comme on est. Comme vous disiez tout à l'heure, je ne suis pas malade. j'ai quelque chose, quoi. J'ai un problème, ok.
Oui.
Et je m'honore comme je suis.
Allez, encore une question, Laurent.
Alors,
j'ai
une question d'un collègue. Je suis psy, j'ai une jeune patiente de 23 ans qui s'est présentée en consultation. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait et qu'elle avait besoin d'aide. Mais après cela, au fil des séances, elle venait, restait silencieuse. Ça a duré plusieurs mois comme ça. Et j'ai respecté ses silences et sa volonté, mais quelque part en moi, j'ai vécu cela comme un échec, une grande frustration. Alors, peut-on proposer l'EFT dans des cas pareils? Alors, déjà, moi, j'entends que cette personne allait mieux, même si elle est restée silencieuse et qu'elle a frustré le thérapeute. Donc ça, c'est parfait. Par contre, sur quoi j'ai envie de rebondir, c'est la frustration du thérapeute quand cela arrive, parce que ça m'est arrivé, je pense que ça nous arrive tous. Et moi, j'ai parfois tapoté sur des séances où j'avais eu le sentiment d'échouer, de mal faire. Et ça m'a vraiment permis aussi d'aller voir qu'est-ce que moi je mettais en jeu, quel est l'enjeu que je mettais dans cette guérison de l'autre et cet attachement que j'avais à la guérison de l'autre. C'est-à-dire que moi aussi j'étais agrippé à quelque chose et simplement de favoriser une forme de recul, de lâcher prise et d'accueil. Après tout, je ne sais pas quel sens a ce symptôme et je m'ouvre à la possibilité de m'accueillir et d'accueillir l'autre dans cet inconnu. Voilà. Est-ce que j'ai encore le temps, une ou deux ou pas?
Oui, oui, oui.
Ouais. Alors, une qui pose la question un petit peu de ce que des patients dont j'ai parlé, qui demande si l'EFT peut être suffisante ou doit-elle être combinée avec associée à un traitement antidépresseur.
Oui, j'ai vu passer ça.
Et ça me paraît vraiment important d'y répondre parce que d'abord, moi, je travaille à la fois en institution et en libéral avec des personnes qui ont eu des dépressions sévères ou qui en ont encore. En institution, la plupart des personnes ont des antidépresseurs. S'ils n'en ont pas, ils ont une forme d'étayage qui est fort puisqu'ils sont en clinique. La plupart des personnes ont un traitement et donc qui est donné par le psychiatre. Et moi, je travaille toujours en collaboration avec des médecins. De toute façon, on est dans un domaine médical. La dépression, c'est très grave. Il me semble vraiment important qu'elle soit accompagnée par un médecin, de toute façon. Et moi, il ne m'arrive pas de travailler avec des personnes qui, s'ils ont une dépression qui est vraiment prononcée, qui n'est pas un suivi médical. Et après, c'est le médecin qui donne le traitement qui est indiqué. Et l'EFT, en tout cas, moi, je viens en complémentarité après. Voilà. Et après, quand la personne va mieux, on peut accompagner finalement l'arrêt du traitement tout doucement. Mais favoriser toujours le confort. Dans la dépression, c'est vraiment important aussi de le prendre d'un point de vue aussi médical, parce que la dépression, comme je disais, est aussi s'inscrit au niveau biologique. Et vraiment important de donner du confort à la personne. Une autre question ? Ouais ? Alors,
oui. Je fais de temps en temps des crises d'angoisse au supermarché.
Oui.
Et j'appréhende quand je pars en voiture.
Ouais.
Ça s'est déclaré après l'accouchement de mon fils. Je me suis toujours soignée par l'acupuncture et l'homéopathie. Mon docteur me dit que j'ai un grand manque d'affection de ma mère, qui ne me le disait pas, et je restais toujours sensible. Et que je resterai toujours sensible. Ah là, il y a un diagnostic qui est posé pour longtemps. Oui, est-ce que l'EFT peut m'aider? Combien de fois par jour puis-je faire l'EFT? Merci beaucoup.
Ça me rappelle un diagnostic que j'ai entendu hier, une personne qui avait suivi une cure pour arrêter de boire, à qui on avait dit, de toute façon, vous êtes alcoolodépendant, vous serez dépendant toute votre vie. Bon, alors oui. Après, on peut commencer après, déjà...
On peut commencer à tapoter tout de suite, ouais.
On peut commencer à tapoter tout de suite déjà sur les croyances qui sont distillées là-dessus. Moi, j'entends beaucoup de choses qui sont de projections. Moi, cette personne qui me raconte ses symptômes, je ne sais vraiment pas pourquoi elle les a, en toute honnêteté. Donc, je prendrai déjà le temps d'écouter, de essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, et puis effectivement de proposer l'EFT. Ça m'arrive souvent d'en voir des personnes qui angoissent en supermarché. Pour ma part, je trouve ça assez normal, parce que je les trouve angoissants, les supermarchés. En tout cas, ça, c'est ma croyance à moi. Et on peut travailler après vraiment sur le... je crois qu'on peut toujours travailler sur deux axes, c'est-à-dire le symptôme et puis un petit peu en amont. Favoriser un peu plus de confort avec l'EFT dans la vie quotidienne, c'est-à-dire tenter que ce soit un peu plus confortable, mais honorer aussi le fait de l'inconfort du supermarché. Après tout, peut-être une femme très occupée qui est un peu débordée, alors je ne sais pas ce que ça peut évoquer pour elle, le supermarché. Et puis j'entends parler de grossesse, j'irai un peu visiter un peu cette histoire-là, et je commencerai, je crois, avant toute chose, à parler de ce diagnostic posé sur pourquoi je suis malade, qu'est-ce qui a fait que voilà, cette espèce de choses un peu projetées rapidement, je trouve, par ce médecin. Voilà.
Oui, c'est sûr que on peut voir des gens qui arrivent à faire d'énormes transformations, d'autres personnes qui font des transformations un peu plus légères, mais entre une très forte angoisse de rentrer dans un supermarché et un léger inconfort, il y a quand même du travail qui peut être fait en EFT pour, si cette phrase est vraie, et dans notre pratique, on peut quand même le voir, c'est que toute émotion négative est due à une perturbation de le système énergétique. Plus on tapote et plus on le fait avec persévérance, plus on s'aperçoit tout de même que beaucoup de gens arrivent à transformer leur état émotionnel.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et de donner un peu plus de confort dans sa vie et de gagner un tout petit peu de terrain, hein. Ça peut être d'abord, par exemple, dans ce cas-là, la petite épicerie avant le supermarché, enfin des pas, des petits pas. Plus. Ouais, des petits pas.
Hein. Des petits
pas. L'EFT, je pense qu'on peut tous converger vers quelque chose, c'est que l'EFT est là un peu pour favoriser une position presque non-dualiste avec soi. C'est-à-dire que nous sommes, nous les êtres humains, dans la dualité, hein, on classe en bon ou mauvais, depuis notre enfance.
Oui.
Et tout doucement de favoriser aussi des zones un peu de gris, sans que ce soit ni noir ni blanc, et puis peut-être un peu plus lumineuse, un peu plus joyeuse, tout doucement, et d'honorer vraiment les différents aspects de soi, y compris ce qu'on nous a appris à rejeter, hein, nos colères, nos peurs, nos haines, et nos peurs, par exemple. J'ai peur de cela, c'est pas bien, j'ai peur de prendre ma voiture, c'est pas bien. Voilà, c'est souvent là, quand même quelque chose de l'ordre de la survie qui est engagé en arrière-fond, hein, dans l'inconscient. Donc, prenons-le en considération, déjà.
Oui, déjà, c'est beaucoup.
Respectons nos peurs.
Nos peurs, et puis, ne perdons pas espoir de pouvoir les transformer, un pas après l'autre, jour après l'autre. Mmh. Et moi, qui étais profondément phobique, claustrophobe, c'est complètement passé aujourd'hui.
Ouais, super.
Et et je peux rentrer dans des salles de cinéma, et je peux faire plein de choses qui m'étaient impossibles de faire. Ah. Et si je lis ce qui est écrit sur les phobies, ce que certains ont écrit sur les phobies, c'est que si on n'en trouve pas la cause, on ne peut pas s'en libérer. Je peux dire que c'est faux puisque je ne sais pas, je n'ai jamais connu la cause de ma phobie. Moi, j'ai l'impression que je suis née avec, ou c'est très très ancien, et c'était une peur très profonde qui m'a quittée aujourd'hui.
Mmh. Oui, parce qu'on est parfois dans, ouais, on est parfois dans une illusion hein, de que la cause, l'origine va résoudre le problème, pas forcément.
Pas forcément.
Pas forcément.
Non, et en trouver plus... l'origine ne va pas forcément résoudre le problème et on peut résoudre le problème sans trouver la cause. Ça va dans les deux sens. C'est pas une obligation. Bon, ça peut aider. Oui. Hein, et certaines personnes ont plus ou moins besoin de comprendre.
Oui. Je vous remercie de préciser ça parce que peut-être tout à l'heure j'étais peut-être un peu flou dans ce que j'ai voulu dire. C'est vraiment que d'aller causer un petit peu de ce qui s'est passé en amont, c'est vraiment voir tout ce qui entoure ce problème. Hein, tous les aspects. Et c'est vraiment ça que je voulais dire, plus que l'origine exacte, parce que l'origine est quand même un peu illusoire, quelque part. Hein. Ça vient satisfaire le mental, mais ce n'est pas forcément suffisant.
Oui.
Bon,
voilà. Bon, on m'a libéré là.
Ah, juste une petite question, parce que ça concerne quelqu'un.
Pourquoi pas ce tirage au sort ?
Ouais, c'est juste sur la souffrance du surpoids et des abus sexuels. Doit-on commencer par l'un, doit-on commencer par l'autre? C'est un peu comme une question qui s'était posée tout à l'heure, Noël. Ça dépend vraiment des choses. Moi, par exemple, je vais volontiers faire des séances sur des choses dans lesquelles il y a eu des abus et de temps en temps revenir sur le poids. Ça dépend aussi ce que le patient amène et ce qu'il a envie de travailler à ce moment-là. Et je pense que c'est important d'honorer parce qu'il le sait. Voilà. C'était mon mot de la fin.
C'est okay. D'accord. Merci infiniment, Laurent.
Merci beaucoup, Laurent.
Merci à vous tous.
Merci à tous qui sont restés jusqu'au bout malgré nos petites difficultés techniques. Sachez que tout ce que vous mettez dans la boîte à questions sera transmis, donc c'est ouvert aussi pour vos remerciements, pour vos commentaires, pour vos retours, comment vous vous sentez après le tapping et tout ça. C'est un petit peu frustrant de ne pas voir apparaître vos commentaires et les commentaires des autres.
C'est très frustrant. Mais un peu frustrant, c'est
sachez
très, très
que
frustrant.
Nous allons transférer ça dans la page de réécoute aussi, pour que Laurent puisse continuer à répondre à vos questions.
Merci Laurent, on se voit bientôt. Merci.
À bientôt.
À bientôt.